Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Pixel.
Oh, ne nous écoutez pas en roulant, hein, en voiture, c'est dangereux.
D'ATH.
Salut à tous.
Et de Dwayne.
Hello tout le monde.
Au sommaire de l'actualité, cette semaine, notre sélection de l'E3, tout simplement. On s'est dit que, on allait montrer l'exemple à Steam, on allait faire un peu de curation, n'est-ce pas? Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné un jeu et un sujet. Et peut-être que si on a un peu de temps à la fin, on fera un peu de rab. Mais il se trouve que comme ATH doit se barrer, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vont voir des matchs de foot comme ça. Donc, il faut qu'on se dépêche. Donc, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec la sélection d'ATH, et on va parler de Sekiro Shadows Die Twice, le nouveau jeu de From Software. Alors, pour vous présenter Sekiro, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, ce n'est pas le prochain Dark Souls. Et pourquoi ce n'est pas le prochain Dark Souls? Parce que ce ne sera pas un RPG avec des stats, avec du matos à ramasser. Il y aura juste à la limite des améliorations à ramasser pour le bras du personnage, mais on l'évoquera tout à l'heure. Il n'y aura pas de multijoueur comme dans Dark Souls, et surtout, il n'y aura pas de système de mort à la Dark Souls. Et oui, vous aurez plus d'âme et de bonfire, etc. Vous aurez plus ressusciter pour aller récupérer vos âmes désespérément. Par contre, vous pourrez ressusciter, mais attention, j'y reviendrai. Ensuite, ce qu'est Sekiro, et c'est là où je pense que ça devient intéressant, c'est que déjà, c'est un setting japonisant. Exit la fantasy. Ensuite, il y aura un zeste d'infiltration. Le jeu n'est pas sans nous rappeler un certain Tenchu avec son grappin qui pourra s'accrocher un peu partout, n'est-ce pas? Il y aura des sauts. Attention, révolution chez From Software. C'est un jeu où le personnage, j'en parlais, pourra ressusciter pour mieux surprendre ses ennemis. C'est-à-dire que si vous mourrez, la partie n'est pas terminée. Les ennemis se désintéressent du personnage et vous pourrez mieux les surprendre en ressuscitant pour les assassiner par derrière. Vous aurez aussi un jeu avec un système de posture. Plus vous allez bloquer les coups, plus votre posture va être basse et viendra le moment fatal où l'ennemi pourra vous achever et inversement. Sachant que si vous faites une parade parfaite, là, par contre, vous ne perdrez pas de posture et en plus, vous déséquilibrez l'ennemi. Et enfin, il y aura un système de kanji qui permettra de signaler si l'ennemi s'apprête à faire une attaque spéciale, etc. Il y aura de la verticalité, et oui, bien évidemment, hein, puisqu'il y a un grappin. Et pour terminer, un level design à la From Software, ce sera un monde interconnecté. Hein. Ça, par contre, on ne perd pas les bonnes habitudes, ce qui ne sera pas pour me déplaire. Et du coup, je me tourne vers ATH. ATH, qu'en penses-tu? Est-ce que tout ça te plaît ou pas?
Alors forcément, ça me plaît si j'ai envie d'en parler. Ce que j'aime beaucoup déjà par rapport aux anciens jeux de From Software, comme tu l'as dit, c'est que on va dans un univers totalement différent. D'ailleurs, petite anecdote pour ceux qui connaissent un peu la série des Souls, à l'instar d'un Dark Souls où il y avait un personnage qui était teasé dans le DLC qui annonçait Bloodborne, et ben en fait, il y avait un peu un personnage qui annonçait ce jeu-là dans le DLC de Bloodborne aussi.
Ah bon?
Donc c'est ouais, c'est marrant en fait, il y a un personnage un peu japonisant comme ça qui était dans Bloodborne, qui avait rien à foutre là. Et comme tu l'as dit, bah c'est cool parce que ça rappelle aussi un petit peu Onimusha par l'aspect infiltration, mais surtout par l'aspect
Tenchu, tu veux dire.
Ouais, Tenchu, excuse-moi. Par l'aspect d'utilisation du grappin ainsi que le côté infiltration. Donc ça c'est plutôt cool, surtout que bah From Software, ils avaient travaillé sur Tenchu à l'époque. Je trouve ça assez marrant en fait comment l'histoire se répète.
Bon, précisons quand même qu'ils ont insisté sur le fait que ce n'était pas un jeu d'infiltration. Il y aura des phases où vous pourrez être discret, mais le but in fine c'est quand même de se taper sur la gueule. Hein.
Ouais, bien sûr. Après, ce que je trouve cool, c'est que déjà, bah, comme tu l'as dit, le personnage est beaucoup plus mobile. J'espère que la partie, on va dire, aérienne du jeu sera bien exploitée avec le level design. Le côté aussi, un peu, bah, comme Ghost of Tsushima, on est dans une époque qui était un peu perdue ces derniers temps dans le jeu vidéo, c'est-à-dire le Japon féodal. Depuis Nioh, bah, j'ai l'impression que maintenant, bah, ça revient un petit peu sur le devant de la scène et ça, c'est cool. Parce que ça va changer un petit peu des univers Dark Fantasy que From Software a l'habitude de faire. Alors par contre, j'ai quelques petits bémols sur le jeu, c'est que dans le trailer de l'E3 qu'ils ont pu montrer, j'ai vu certaines créatures qui m'ont fait penser à Bloodborne, ou à Dark Souls. Hein.
T'as un peu l'impression qu'il y a du recyclage, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Du coup, j'espère que ça va être un peu plus varié que ça. Après, ce qui est sympa, c'est que ils ont quand même gardé l'univers un peu fantasmé du Japon avec des créatures. Par exemple, à la fin, on voit un espèce de serpent géant qui ferait penser à God of War, tu vois. Donc ça, c'est plutôt cool. Et par contre, le gros bémol, moi, ce qui me fait chier, c'est que je vais devoir donner de la thune à Activision, et ça m'emmerde, quoi.
Ah oui, parce que, attention, révolution, From Software ne travaille plus avec Namco Bandai, ça y est, ils courtisent Activision. Donc, à mon avis, bon, ils ont fait les choses simplement, ils ont dit, ok, on va sortir un nouveau jeu, qui paye le plus cher. Je pense que surtout, ça s'est passé comme ça. Hein.
Surtout, j'espère que ça va pas être, tu sais, comme Activision avait fait avec Platinum Game. Ils avaient fait un jeu Avatar qui était Legend of Korra, qui était vraiment dégueulasse, un beat'em all ultra basique. Là, j'espère que ça va pas être un jeu de commande, parce que ça, c'est le gros point noir qui me fait peur avec Activision, quoi.
Honnêtement, vu comment le jeu a l'air couillu sur le plan du gameplay, je doute que ce soit une commande d'Activision, quoi.
Ouais, mais bon, tu sais, les gameplay bullshit, on connaît ça, donc moi, je préfère toujours rester sur ma garde. Ils avaient déjà travaillé auparavant avec Activision, hein. Ils avaient fait Tenchu Z sur PlayStation 2 à l'époque. Ouais. Et c'était un jeu plutôt pas mal, mais c'était pas un grand jeu, mais il était quand même assez bon. Donc je me dis, si Activision les laisse faire, et surtout, enfin, ce qui me fait plus peur, c'est la politique de DLC qu'il y a derrière, ouais. Quoi. J'espère qu'ils vont pas dire, vous me mettez 46 DLC dans votre jeu, quoi.
Pixel, toi qui apprécies la franchise aussi.
Alors, je m'attendais à un Dark Souls, voilà. Pas Dark Souls 4, hein, mais je veux dire un Dark Souls, un jeu avec un gameplay à la Dark Souls, avec des bonfires et tout ça, tout ça. Et finalement, il y a rien de tout ça, à part peut-être le level design qui se recoupe. Les automatismes de gameplay qu'on avait appris ces dernières années avec Dark Souls, je crois qu'on va devoir tout remettre à zéro et tout réapprendre avec un nouveau système de gameplay. Il y a aussi l'apparition du grappin qui me plaît fortement. On l'a vu dans le trailer, ça sert aussi à combattre les boss. J'étais surpris qu'ils remettent tout à zéro, mais finalement avec le recul...
Ils avaient prévenu Pixel, hein.
Moi, ouais, mais prévenu. Moi j'avais rien lu, rien entendu, je m'étais gardé la surprise de la découverte, qui a été grosse quand même, enfin grande et grosse. Finalement avec le recul, je me dis que c'est plutôt bien qu'ils repartent sur des bases, je veux pas dire saines, mais à zéro. Ce sera certainement le premier d'une longue série, peut-être, hein, maintenant que Activision est aux commandes. Donc on verra bien, il y aura peut-être des DLC vu que c'est Activision, hein, n'est-ce pas? Alors, il y a un truc qui m'a un peu déçu, alors c'est peut-être que moi, hein, je sais pas, mais en regardant le trailer plusieurs fois, je me suis dit, les graphismes sont pas géniaux quand même, ça éclate
on
pas d'arrêter.
On voit que c'est le même moteur que Bloodborne, quoi, enfin, c'est pas ouf techniquement, après la direction artistique est toujours, enfin c'est From Software, quoi, mais bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est From Software.
Ouais, c'est From Software, ils sont pas réputés quand même pour faire des jeux qui explosent la rétine. Ils l'ont jamais fait, enfin, sauf pour Bloodborne, hein, qui est quand même stylé, il faut le dire.
Oui, mais il est stylé, mais je pense que techniquement, on sera d'accord pour dire que Bloodborne, c'est pas le jeu le plus ouf de cette génération, quoi.
Non,
enfin,
mais comparé...
Il met la PS4 à genoux par moment, alors que ce qui est à l'écran, c'est quand même pas fabuleux d'un point de vue purement technique, je parle, hein, attention.
Oui, mais par rapport aux anciens jeux...
C'est ça, en fait, les jeux From Software, Il repose avant tout sur un design, plus que sur un jeu qui est techniquement beau. Mais moi, enfin, tu vois, tu me proposes d'avoir un jeu avec un gameplay solide et des graphismes moyens, moyen plus. Je préfère ça qu'un jeu
Alors,
très
je
beau et
creux.
Alors,
je suis d'accord
avec
toi, ATH. Par contre, cette fois, je ne pardonnerai pas les ralentissements. Parce que Bloodborne, quand même, je trouve que, vu ce qu'il y a à l'écran, c'est un peu abusé que le jeu, il tourne pas en 60 FPS constant, quoi.
Ah, mais tu sais que, enfin, même le remaster de Dark Souls qui est sorti récemment, le jeu arrive quand même à ramer
compressif. Je sais, et je n'arrive pas à pardonner ce genre de d'écart, si tu vois ce que je veux dire.
Ah, non, mais moi, bien sûr, c'est toujours chiant, hein. Quand il y a des jeux comme ça qu'on apprécie, on aimerait bien que le jeu soit beau, soit nickel, qui tourne à 60 FPS constant. Après, on peut pas tout avoir. From Software, tu vois, c'est pas Naughty Dog ou Santa Monica. Je pardonne, on va dire, les petites erreurs de gameplay et de technique des jeux From Software en général.
Bah, moi, j'ai du mal à pardonner les erreurs de technique parce que, justement, comme c'est des jeux qui sont exigeants sur les timings, etc., quand t'as un jeu qui est pas constant dans son framerate, c'est un problème.
Voilà, ouais, bien sûr, mais après, c'est pas comme si le jeu, il ramait tout le temps, tu vois, non plus. Ça arrive à certains passages et tout. Après, ouais, moi, ça me fait chier, hein, c'est comme tout le monde, quand ça rame et tout, je suis là, enfin, qui n'a pas râlé devant le hameau du crépuscule dans Dark Souls, quoi. C'était injouable, c'était dégueulasse, et ça, on est tous d'accord pour le dire, et je suis le premier à le dire. Après, c'est pas pour ça qu'il faut pardonner à From Software tout et n'importe quoi sous couvert qu'ils font des bons jeux. La question, c'est vraiment que, entre vraiment deux philosophies d'avoir un beau jeu,
Et
un peu creux, tu vois, enfin, le choix il est vite fait. Après, si on peut avoir les deux, je signe tout de suite, hein. Moi, je voulais juste finir sur quelque chose par rapport à ce jeu. c'est que From Software a dit qu'ils voulaient mettre un peu plus en avant le scénario. Je rappelle qu'ils ont dit ça pour Dark Souls 2 et Dark Souls 3. Donc voilà. Mais là, vu que le personnage n'est pas customisable depuis le départ, que tous les joueurs vont jouer le même personnage, je me dis que ils vont aller dans cette volonté-là, mais j'espère qu'ils vont quand même garder cette part de mystère et d'interprétation qui faisait tout le charme de la série. Voilà. Après, reste à voir le jeu en main.
Voilà. Bon, par contre, on va aborder le sujet que tu as sélectionné cette semaine. C'est une déclaration de Régis Fils-Aimé à propos des lootbox. Qu'a dit Régis Fils-Aimé durant l'E3 ? Il a tout simplement dit ceci. Le mécanisme d'acheter quelque chose sans être sûr de ce qu'il y a à l'intérieur est aussi vieux que les cartes de baseball. Ce que nous croyons, chez Nintendo, c'est qu'un mécanisme de jeu qui offre aux consommateurs quelque chose à acheter sans être sûr de son contenu, peut être intéressant, tant que ce n'est pas la seule façon d'obtenir ces objets. Et c'est là que certains développeurs ont fait des erreurs. Pour nous, c'est l'un des nombreux mécanismes que nous pouvons utiliser pour susciter un engagement continu dans le jeu. ATH.
J'ai l'impression que Nintendo, en fait, a toujours un cran de retard. C'est-à-dire que... Non, mais c'est-à-dire que là où tout le monde commence à délaisser les lootbox parce que, voilà, ils voient bien que les gens commencent à râler par rapport à ça, Nintendo dit, mais c'est pas une mauvaise idée si on l'exploite bien. Alors après, moi, je me doute que l'exploiter bien, ça va être toujours pour soutirer de l'argent aux joueurs. Du coup, je vois pas ça d'un bon oeil. Et en plus, ça, c'est un petit peu dommage parce qu'en ce moment, Nintendo, ils ont un peu la hype avec eux. C'est-à-dire que la Switch se vend comme des petits pains. Ils cartonnent vraiment sur les ventes. Tous les éditeurs tiers quasiment veulent sortir des jeux sur la Switch. On avait reproché beaucoup à la Wii U, à la GameCube, à la Nintendo 64 de pas avoir d'éditeurs tiers. Là, ils commencent à venir à fond parce que la Switch se vend très bien. Donc du coup, c'est cool. Et là, j'ai pas envie que Nintendo fasse un faux pas tout de suite en créant des loot box. Parce que c'est vrai que quand on parle de jeux de cartes, que ça soit les cartes Pokémon, les cartes de baseball, comme l'a dit Régis Fils-Aimé, c'est normal, c'est le principe du truc. C'est-à-dire qu'on collectionne, puis on peut échanger. Tu échanges avec d'autres personnes qui ont des cartes qui t'intéressent. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, voilà. Après, c'est pas, les jeux de cartes, c'est pas le débat à l'heure actuelle. Ce qui me fait peur, c'est par rapport au mécanisme. Parce qu'il dit que c'est un mécanisme qui est intéressant pour le consommateur. Le seul pour qui ça peut être intéressant, c'est par rapport à la personne qui vend sa merde. Et moi, j'ai pas envie que Nintendo me sorte un, je sais pas moi, un Smash Bros, etc. avec des loot box pour avoir des tenues qui vont avoir des armes plus puissantes. Par exemple, ton Link, il aura une meilleure épée, il aura une Master Sword upgradée x5, je sais pas quoi. Enfin, tu
mais
vois.
C'est pas grave, ATH, tu pourras les débloquer autrement, voyons. Enfin, t'as juste le cheat code aléatoire, en fait, que tu vas payer. C'est tout.
Non, mais moi, je préfère qu'on, la solution où on peut le débloquer d'une autre manière, tout simplement, sans qu'il y a la case, on peut payer pour l'avoir. Il y a des joueurs qui auront les moyens de payer, ou bien ceux qui vont payer, dans le dos de leurs parents, quoi. Et ceux qui, ils ont pas que ça à foutre de mettre l'argent dans les lootbox, parce qu'il y a des choses plus importantes dans la vie à faire que d'acheter, du contenu qui n'existe même pas, parce que c'est du virtuel, en fait. Tu vois, c'est le truc vraiment, on avait râlé pour les DLC. On a râlé pour tout ce qui était contenu cosmétique. Mais les lootbox, je crois que c'est la pire escroquerie du jeu vidéo, quoi.
Dwayne?
Sachant qu'en fait, Nintendo a un business model hyper sain. C'est-à-dire que le but de Nintendo, c'est faire des jeux bah, family friendly, qui sont là pour tout le monde, de 7 à 77 ans, comme on dit. À côté, ce sont des long sellers qui baissent jamais de prix. Et si on arrive à de la microtransaction ou de la loot box, la base de fans de Nintendo est tellement énorme. On va arriver sur quelque chose, enfin, à l'ampleur de ce qu'a eu Star Wars Battlefront, tu peux multiplier
puissance
ça par 10.
Ouais. Bah, surtout ouais, que ouais, Nintendo non, a une réputation de droiture parmi les joueurs.
Voilà, c'est
regardez,
ça.
C'est les derniers qui font des jeux.
Voilà, ouais,
finis,
le dernier bastion, quoi.
Voilà, c'est ça. Bon, ok, ils nous vendent des amiibo à la con de temps en temps, tu vois, mais au moins on a une figurine avec, quoi. On les achète plus pour la figurine que pour les merdes que tu mets dans les jeux, quoi. Et là, s'ils font ça, à mon avis, là, c'est révolution chez Nintendo, là.
C'est ça, c'est horrible. Là, je pense que la sortie qu'il a fait, il est déjà en train de se faire, mais allumer comme pas possible, parce que c'est juste impossible. S'ils font ça, ça va être l'apocalypse, quoi, mais clairement.
Mais moi, je pense savoir donc, que ça vient, en fait, depuis que Nintendo s'est lancé sur le jeu mobile.
Ah bah ouais, ça, ils ont commencé à palper l'argent, ça. Là, c'est...
Bah, parce que, par exemple, il y a Animal Crossing sur mobile qui cartonne pas mal. Animal Crossing, c'est la série idéale pour vendre du loot box. Parce que Animal Crossing, c'est un jeu où tu peux, un peu à la manière de Sims, décorer ta maison et tout ça. Donc là, ah ouais, t'imagines non, mais... un peu, tu vois, le t'as le meuble rose, t'as le meuble vert, oh, paye un dollar, c'est pas cher, allez, fais-toi plaisir. Ou bien sinon, joue 24 heures pour le débloquer. Enfin, tu vois, les gens, ils vont dire, ah, mais moi, je veux que ma maison soit parfaite dès le début. Allez, hop, je sors 10 dollars, j'ai la maison qu'il me faut. Je suis désolé, mais tu vois, ils veulent pas le payer des sous. Attends, mais loot box, c'est pas mal, ça. On vend rien du tout et on gagne de l'argent.
Mais comme tu le dis encore une fois, c'est enfin ils ont toujours un train de retard, c'est-à-dire que même si t'as tout le business effectivement qui est toujours là en train d'essayer de faire passer les lootbox tranquillement par derrière, t'as quand même voilà EA quand tu regardes la manière dont ils essayent de se retirer, même s'ils vont continuer, hein, faut pas rêver.
Ouais, parce que là ils nous font le numéro de la repentance, mais à mon avis ça va revenir par la fenêtre, vous en faites pas. Hein, c'est...
Voilà, bien sûr. Mais mais quand on voit dans l'opinion publique comment c'est en train de prendre de l'ampleur, Nintendo a vraiment aucun intérêt, même financièrement sur le court terme, ils niquent leur marque mais totalement quoi.
Bon, on attendra de voir ce qu'ils feront. Hein, peut-être qu'ils feront rien parce que. Pour le moment, en substance, il dit « Electronic Arts, vous avez déconné, là. On était chaud au bouillant et vous avez tout niqué, quoi. »
C'est, c'est ça. Pierre, on allait arriver, là. On était chaud.
Bon, Dwayne, on va maintenant parler de ton jeu. Et ce jeu, c'est Ghost of Tsushima. Alors, il me semble qu'on n'a pas eu de preview, par contre, de ce jeu-là. Il y a juste eu une vidéo durant la conférence Sony, qu'on n'évoquera pas ici, mais qui était bien chiante. Voilà. Donc, Ghost of Tsushima, qu'est-ce que tu as à en dire, Dwayne?
Alors, donc, je replace très rapidement. Donc, ça se déroule au 12e siècle, après l'invasion mongole sur l'île de Tsushima, donc au Japon. On va incarner Jin, c'est un ancien samouraï, en fait, qui va devoir, pour vaincre les Mongols, changer sa façon de faire et justement devenir le fantôme de Tsushima, d'où le nom. Je vais d'abord donner mes points négatifs. C'est au niveau du gameplay, mais...
Il y a du QTE par moment, c'est... Ouf.
Ouais, franchement, le gameplay, pour l'instant, enfin, je suis pas du tout chaud. C'est un peu l'inverse de Sekiro, où Sekiro, voilà, bah, au niveau visuel, c'est pas hyper excitant, quoique, voilà, la DA et certaines choses rattrapent le tout. Mais au niveau du gameplay, ouais, il y a pas mal de choses intéressantes. Et Ghost of Tsushima, c'est l'inverse. Visuellement, c'est assez bluffant après à voir comment ça va être downgradé.
Attends, parce que c'est quand même Sucker Punch derrière.
Oui, mais enfin.
T'as vu la tête de leur dernier Infamous?
Oui, d'accord.
Et pour le début de PS4, il était quand même assez bluffant, quoi. Et
ouais,
quand
tu on verra. Parce que c'est un open world total, donc c'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous le voyez au-dessus de la colline et qu'il regarde à l'horizon, on peut aller n'importe où. Moi, ça me plaît au niveau vraiment de l'ambiance, du fait que ça va retranscrire en tout cas assez fidèlement. Pour le jeu vidéo, bah, cette invasion qui est assez peu traitée dans l'entertainment en général. L'univers, en tout cas, m'a bien plu. Vraiment, c'est même le combat, enfin, là où on voit les feuilles d'érable rouges, etc. La manière dont les caméras se placent pendant
ouais,
les
combats. C'est ce
les
que j'allais dire. Il y a des fulgurances sur la mise en scène qui sont vraiment, le moment, tu sais, où la caméra, elle passe sur le côté et t'as l'impression de voir un jeu de baston où les mecs, ils se tapent sur la gueule et puis derrière, t'as les Mongols qui commencent à tirer des flèches de feu, etc. Et là, tu fais la mise en scène, ouah, c'est trop beau. Enfin, la mise en scène, elle est ouf sur ce jeu. Et, honnêtement, un peu comme toi, tu vois, autant je suis pas du tout hypé parce que j'ai vu du gameplay. En même temps, on n'a pas vu grand chose, hein, soyons honnêtes. Ça a été assez court comme démo.
On va en voir plus, bien sûr, mais pour l'instant, pour moi, ce qui tape vraiment, c'est la mise en scène, l'ambiance générale. À savoir aussi que ce qu'on a vu, c'est une quête secondaire. Et dans l'intention, ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment mettre peu de cutscenes, c'est-à-dire toujours dans le gameplay, raconter l'histoire à travers le gameplay, c'est-à-dire le mec arrive, avoir quelque chose d'assez fluide.
De seamless.
Voilà, seamless. Sans grosse cutscene qui te sort de l'action, quoi.
Bah pour le moment, en tout cas, moi, ce que j'ai vu m'a convaincu. Maintenant, faut voir ce qu'on aura en termes de gameplay, quoi. Pixel ?
Il y avait un truc qui m'avait quand même chagriné dans Ghost of Tsushima. Les Mongols parlent mongol, mais les Japonais parlent anglais.
Et anglais avec un accent... Wouh !
Un accent à peine californien.
Ouais. Alors, à ce niveau, juste, je te laisse continuer, j'explique ouais. Rapidement. Là, ils sont encore en train de se demander qu'est-ce qu'ils vont faire à ce niveau-là. Il y aura un doublage anglais et japonais, donc tu pourras le mettre, bah moi je vais le mettre clairement en japonais. Et en fait, ce qu'ils se demandent, c'est, bah à l'époque, t'avais ça, les Mongols qui arrivent, tu comprends pas ce qu'ils disent, donc c'est encore plus flippant. Et ils se demandent, est-ce qu'ils vont garder ça comme ça ou est-ce qu'ils vont mettre des sous-titres?
Mais ce qui me dérange, c'est surtout en fait que les Japonais qui parlent anglais, la synchro labiale a l'air d'avoir été faite sur la langue anglaise et pas japonaise. Et donc même si tu mets les dialogues en japonais, bah t'auras la synchro labiale en anglais et ça sera pas raccord. Et moi, déjà en regardant la vidéo, ma suspension consentie d'incrédulité est tombée à zéro. Et là, j'ai peur, quoi. J'ai peur.
Bon, avec un peu de chance, ils corrigeront ça d'ici la sortie. Je pense qu'ils sont pas totalement débiles à ce point. Enfin, on espère, hein.
De toute façon, ils savent même pas encore s'ils vont le garder comme ça. Donc, mais en tout cas, ce qu'ils ont envie, ouais, c'est de garder un peu cette peur du Mongol, parce que tu le vois arriver déjà en masse. En plus, tu comprends pas ce qu'il se raconte. Donc, avoir un peu cette ambiance qui reste un.
Ouais, ça peut être, c'est intéressant, je trouve, comme réflexion, de se dire, alors du coup, est-ce qu'on met les sous-titres pour que les gens comprennent tout, ou est-ce qu'on laisse le flou pour le mettre bien dans la peau du personnage? Et moi, j'avoue que je suis plutôt partisan de la deuxième solution.
Ouais, et je voulais rajouter que ça me rappelle Max Payne 3, souvenez-vous, les gens qui parlent en brésilien, bah c'est pas sous-titré. Parce Exactement. Qu'on se met à la place de Max Payne, qui lui ne comprend pas le brésilien, et donc, bah, nous le comprend pas non plus, donc il n'y a pas de sous-titres.
Ouais, c'est assez excellent, ça.
Et ça permet de créer des situations, si je pense d'un point de vue gameplay, ou... Ah tiens, si on faisait faire au joueur une connerie et qu'il s'en rende compte après... Tout ça parce qu'il n'a pas compris ce que les gars
disaient. C'est ça qui serait intéressant de pouvoir jouer là-dessus, sur l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est là, tu sais pas s'il va t'attaquer, t'es toujours dans cette peur constante de pas savoir que faire. Et moi, je trouve que ça serait une idée très intéressante à exploiter, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans le jeu vidéo. Après, j'ai une question à vous poser par rapport à ce jeu-là, parce que moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment gêné, en fait, dans le gameplay, c'est que j'ai l'impression que le héros, quand il tape les ennemis, il n'y a pas de feedback. J'ai l'impression qu'il tape comme dans du beurre. Et ça, ça me gêne un petit peu par rapport...
Ouais, je pense vraiment qu'ils sont encore en train de taffer là-dessus, parce que moi, ça saute assez aux yeux. Enfin, moi, ça m'a... Pourtant, je suis pas hyper méticuleux sur ces choses-là. Dans les vertical slice, mais ça m'a...
Ouais, bah surtout quand t'as vu la vidéo de Sekiro juste avant, oui. Donc c'est le cœur du sujet, quoi, le clash entre les armes et tout, c'est vrai que bon... voilà, ça saute un peu aux yeux, quoi.
Mais après, ouais, mais en tout cas, visuellement, le jeu, tu vois, pour le coup, il est beau techniquement et artistiquement, en fait.
Il y a une ambiance.
Voilà, il y a des milliers de détails, par exemple, le combat final qu'on voit dans la démo... Y a tellement de pétales qui arrivent comme ça avec le coucher de soleil au loin.
Si toutes les quêtes sont mises en scène comme ça, wouh!
Ouais, puis tu sais, même avec au début de la démo, quand il est sur son cheval qui traverse l'espèce de plaine avec toute la végétation qui bouge en même temps avec le vent, est-ce que ça tourne vraiment sur une PS4, tu vois?
Il y a le bullshitomètre qui s'affole un peu quand même.
C'est que là c'est vraiment. En fait, il y a trop de particules par rapport à ce que j'ai pu voir sur cette génération. C'est-à-dire, il y a l'effet des flammes, l'effet des feuilles, l'effet du vent, enfin.
Ouais. Après, quand je parle de downgrade, on pas, enfin, parlons bien, tu vois, c'est un peu comme le vertical slice de Anthem qu'on avait l'année dernière. Ce sera un peu ce type de downgrade, parce que finalement, ça y est, on est arrivé à ce qu'on va avoir avec Anthem, et puis c'est pas si éloigné que ça de ce qu'on avait, mais voilà, c'est pas aussi bluffant.
Bah un peu comme The Witcher 3, quoi, quand tu vois la démo de départ et ce qu'on a eu au final, il y a quand même des différences, quoi.
En gros, downgrade acceptable, quoi. C'est pas Watch Dogs, quoi.
En tout cas, moi, ce qui me rassure, c'est que je me dis que le jeu ne pourra pas être plus moche que Infamous Second Son, et le jeu était déjà assez joli pour son époque, donc si on a un jeu de ce niveau technique-là, avec tous les détails à fond, et que le gameplay a vraiment un impact plus tard, et que ça a été corrigé, et que t'as un feedback qui revient...
Par contre, s'il bosse pas sur le gameplay, ça sera un vrai problème.
C'est sûr
ça
que...
casse tout, quoi, tu vois, quand t'as le jeu en manette en main, et que tu vois à l'écran quelque chose de super stylé, mais que t'as pas les feedbacks... C'est un tue-l'amour, hein. J'espère vraiment qu'ils vont bosser là-dessus. Par contre, on va passer à la suite et on va maintenant parler de Microsoft, Dwayne. Je cite, hein, je ne dis pas que je cautionne. Si, en vrai, je cautionne, hein, totalement. Microsoft dépose les armes.
Tout à fait. Bah, en fait, Microsoft, ça y est, a compris qu'ils avaient perdu. Après, il y a quelque chose qui me gêne un peu. C'est cette ambiance où on dit ouais, un peu à la Nintendo à un moment donné, est-ce que la marque Xbox va mourir?
Bah, je sais pas, vous avez regardé tous les studios qu'ils ont rachetés? Non, c'est juste, ils ont dit ok, cette gen c'est mort, par contre regardez tous les studios qu'on a rachetés, rendez-vous à la prochaine génération. Exactement. Moi c'est ce que j'ai compris avec cette conf, hein,
ouais,
pas
c'est
vous,
tout à fait ça, mais même cette génération là, c'est-à-dire qu'ils ont perdu, mais malgré ça, enfin, la marque Xbox est hyper rentable, je veux dire, Minecraft cartonne, la Xbox se vend très mal par rapport à PS4, mais plutôt bien, on est un peu dans des chiffres similaires à la 360, à la même période. Donc on est sur quelque chose de correct, de rentable, mais effectivement, par rapport au potentiel qui est celui de l'adversaire Sony, on en est très loin. Donc ce qui se passe, comme tu l'as dit, ils ont racheté donc 5 nouveaux studios, créé un nouveau donc à Los Angeles, ils ont racheté Ninja Theory, 3 autres. Donc là, c'est vraiment, ils se renforcent pour arriver sur la next-gen. Ils ont montré même le Crackdown 3, c'était horrible comme moment, j'étais mal à l'aise.
À un moment donné, voilà, il va falloir décider d'aller achever, hein, je pense.
ils vont le sortir sous le tapis. Ce qui est plutôt intéressant, entre guillemets, c'est qu'ils peuvent sortir des jeux moyens, comme j'ai envie de dire presque tout ce qu'ils ont sorti dernièrement, c'est-à-dire Sea of Thieves, State of Decay et Crackdown, c'est-à-dire que comme il y a l'abonnement et que tout est avec l'abonnement, finalement, si t'as déjà l'abonnement et que tu joues à ça, je sais pas, une ou deux heures, juste pour t'amuser, ce sera beaucoup moins déceptif que de l'acheter, quoi. Et voilà, rendez-vous à la prochaine génération, quoi, Microsoft.
Allez, on va enchaîner et je vais maintenant parler du jeu qui personnellement m'a hypé follement dès que j'ai eu la preview. Eh ben, c'est Cyberpunk 2077. Alors, autant j'avais trouvé le trailer absolument nul à chier, je tiens à le dire. C'est du Cyberpunk ultra classique, enfin moi ça m'a pas du tout donné envie. Autant par contre, alors ce que j'ai lu dans les previews personnellement, écoutez, j'attendais CD Projekt au tournant. Pour le moment, ce que j'ai lu me satisfait. Alors déjà, révolution chez CD Projekt, Cyberpunk 2077 sera à la première personne et non plus à la troisième personne. On pourra customiser son personnage, donc contrairement à ce qu'on aurait pu penser en voyant le trailer de l'E3, non, on va pas se taper un héros générique qui ressemble à rien. Ouf, me voilà rassuré. Il y a des petites nouveautés, moi, qui me font saliver. Par exemple, la petite jauge de Street Cred qui va vous permettre, tout simplement, si vous avez une certaine réputation, de débloquer des contrats. Les mecs, ils vont se dire, ce serait peut-être bien qu'on fasse ce boulot à ce gars-là. Je trouve que c'est une idée géniale. Et c'est une idée simple en plus, hein. Tu dis mais pourquoi personne n'y a jamais pensé avant? Et surtout cette jauge, elle va te permettre d'aborder certaines quêtes différemment, notamment dans la démo qu'ils ont montré aux journalistes Beyond Closed Doors, le fait d'avoir une certaine réputation a permis au présentateur de contacter une certaine personne qui lui a donné accès à des contacts qui lui ont permis de récupérer l'objet dont il avait besoin. Donc ça, je trouve ça méga cool. En plus de ça, univers cyberpunk oblige, on va avoir une certaine verticalité dans les environnements. Et apparemment, de ce que disaient les journalistes, c'est assez dingo, c'est-à-dire que, enfin, à un moment donné, tu sais, ils font exprès de faire prendre l'ascenseur et tu vois plein de trucs dans la ville qui bougent, etc. Il y a des PNJ partout, vraiment très très intéressant. Et puis, bon, il y a des petites choses qui vont plaisir, hein, genre le piratage de PNJ, les augmentations, les véhicules. Enfin bref, voilà. Moi, tout ce que j'ai lu pour le moment sur Cyberpunk, ça me hype énormément. Bon, maintenant, après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déçues du fait que ça soit pas la troisième personne.
Oh.
Non, mais après, c'est vrai que ça manque peut-être de cohérence de customiser son avatar. Et derrière, tu le vois quasiment jamais, en fait. À part certaines phases d'infiltration, etc. Mais personnellement, je préfère la vue à la première personne parce que je la trouve plus immersive. Voilà.
En tout cas, les développeurs de CD Projekt ont dit qu'il y aurait plusieurs façons dans le jeu de pouvoir revoir son personnage. Donc, les gens n'ont pas à s'inquiéter par rapport à ça. Et puis même, voilà, ça reste qu'un avatar virtuel. Donc, ok, tu fais ton personnage et tout ça. Tu peux le faire de la manière dont t'as envie. Après, selon les premiers retours des journalistes, ça annonce quand même plutôt du bon. Si le jeu, les développeurs ont choisi que c'est un FPS, moi j'ai confiance en ça, quoi. Et puis après, voilà, tu peux être déçu par rapport à ça, mais c'est pas ça qui fera de lui un mauvais jeu ou un bon jeu. Le seul bémol que j'ai, c'est que CD Projekt, au lieu de montrer ça aux journalistes, pourquoi nous l'ont pas montré sur une scène E3 à nous les joueurs? Nous, on aurait bien voulu voir du gameplay, tu vois.
Moi, je pense que c'est à cause de la polémique qu'il y avait eu sur le downgrade de The Witcher 3. Enfin, pour avoir pas mal suivi à l'époque, ça les a vraiment traumatisés, j'ai l'impression. Ils avaient même fait des déclarations comme quoi ils admiraient le modèle de Bethesda, tu sais, qui montrait les jeux et qui les sortait juste après. Et en fait, ils veulent en montrer le moins possible tant qu'ils sont pas sûrs, j'ai l'impression, que le rendu final se sera proche de ça. Moi, je pense que c'est juste ça, pour le moment. Voilà.
Mais moi, je trouve pas ça scandaleux par rapport au jeu, comme The Witcher 3 a été annoncé. C'est vrai que la première version était beaucoup plus belle, mais c'était pas d'un niveau de Dark Souls 2, où Dark Souls 2 te montrait un jeu techniquement ahurissant. Et au final, quand il sortait, le jeu, c'était le premier, un peu plus beau, mais ça avait rien à voir. Du coup, là, c'était un gros bullshit.
Oh non, non, attention, Dark Souls 2, c'était pas du bullshit. Je rappelle que moi, j'y ai joué à cette version-là, en plus, hein, à la version jolie.
Mais
c'était la version PC, en fait. Mais ils ont downgradé la version PC au passage. C'est ça le problème.
Non, mais ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi la version PC, quand elle sort, elle est dégueulasse? Et quand ils nous refont le Scholar of the First Sin, elle est aussi dégueulasse que la précédente.
Ah, ça, il faut, les voix de From Software sont impénétrables.
Ah, non, mais voilà. Et du coup, c'est complètement con. Tu vois ce que je veux dire? Ils avaient développé un truc qui était génial sur le papier. Et là, ils te sortent un truc, dégueulasse, quoi. Après, le jeu, ça fait pas de lui un mauvais jeu. Mais c'est juste que là, il y avait mensonge sur la marchandise, quoi.
Bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, s'ils veulent pas le montrer, moi, je suis persuadé que c'est parce que ils veulent pas avoir d'histoire à cause des downgrades, blablabla. Voilà. Moi, je pense que c'est la raison. Dwayne?
Après, pour ce qui est de la vue première personne, bah moi, je suis justement parmi ceux qui préfèrent la vue à la troisième personne. Mais à côté de ça, bah tu fais un monde cyberpunk. Et puis, je pense que par rapport à la verticalité et à l'immersion et au fait que tu auras parfois un œil cybernétique qui va te permettre de voir d'autres infos, etc., ça prenait beaucoup plus de sens de le faire à la première personne. Donc ça, finalement, c'est pas du tout gênant quand tu penses...
Le seul truc qui me gêne, c'est ce qu'avait relevé la preview de Gamekult, d'ailleurs. Quand ils font des dégâts, t'as les points de vie qui s'affichent, tu sais, comme dans les anciens Final Fantasy, où quand tu faisais les dégâts, t'as genre 9999, 7000 machin. C'est un peu tue l'amour, je trouve, dans un... Enfin, d'un point de vue immersion, tu vois.
Je pense qu'il y a
d'autres moyens
d'accord.
de représenter ça graphiquement que de faire un bête système de points de vie à la Borderlands, quoi.
Bah même si ça avait pas grand chose à voir, ça m'a fait un peu penser à dans Anthem justement, où c'est un truc un peu immersif, etc. Et t'as des trucs combo à la Borderlands, j'ai fait what? J'espère que ça va être qu'on va pouvoir le désactiver, c'est abusé.
Bah surtout que Anthem, le jeu est vachement photoréaliste quoi. Et dans Borderlands, je trouve que ça passe mieux parce que c'est un univers cartoon,
oui,
en cel shading. Enfin moi, Anthem, quand j'ai vu la démo, je me suis dit, putain, mais c'est le truc qui casse totalement l'immersion, quoi. T'as vraiment l'impression que c'est un film en image de synthèse et tout, donc t'es vachement dedans. Et là, dès que ça commence à tirer, quoi, 25, 50, mais c'est, enfin, voilà, c'est vrai que, comme tyran, moi, je pense qu'il y a des moyens plus subtils aujourd'hui de, que bêtement représenter ça par les mathématiques. Donc voilà.
Bon. Et pour terminer, le sujet que je voulais évoquer, mais on va l'évoquer rapidement, c'est Sega qui a enfin décidé de se bouger le cul, putain, alléluia! On a eu un petit trailer durant le PC Gaming Show, qui au passage était vraiment pas mal cette année, où on a enfin eu des infos du côté de Sega, à savoir qu'ils vont sortir Yakuza 0, Yakuza Kiwami, et surtout Valkyria Chronicle 4 sur PC, hype over 9000, je prends tout, merci, au revoir. Si vous foirez pas votre portage, Sega, je vous garantis, je vous prends tout le lot. Voilà, merci beaucoup, au revoir.
Par contre, moi, il y a juste un truc qui me dérange, c'est que Sega, ok, c'est cool, il sort sur PC, mais les joueurs Xbox, ils puent la merde. Enfin, si tu le sors sur PC, c'est-à-dire que bah l'exclusivité avec Sony ne tient plus par rapport au Yakuza. Bah, pourquoi ne pas le sortir sur la console d'en face? Ça fera toujours des ventes en plus. Enfin,
Est-ce qu'ils ont pas négocié une exclusivité console? Va savoir.
Peut-être. Ah ouais, mais maintenant avec les exclusivités console, c'est n'importe quoi. On sait plus ce qui est.
C'est de la merde, mais.
Non, mais c'est, oui, c'est de la merde. Bah après, c'est cool pour les joueurs PC parce que les Yakuza et puis Valkyria, c'est des bons jeux.
Et puis même Valkyria, ça avait aucun sens, quoi. Le jeu, il a dépassé le million, mais d'où tu le sors pas sur PC, quoi. C'est ça n'avait aucun sens.
Après, j'espère que la plupart des joueurs PC ont eu au moins une PS3 parce que pour suivre la série Yakuza et d'arriver à un certain numéro sans avoir connu les autres, ça va être un peu compliqué. Mais bon, après, avec
YouTube... Après, là, techniquement, ils sortent le 0 et Kiwami. Donc, le 0 qui est la préquelle et Kiwami qui est le premier refait. Donc,
Ouais, c'est ça. Voilà. Mais après, c'est pour... Parce qu'il y a Kiwami 2 qui arrive, qui est la suite du premier, le remake. Après, s'ils enchaînent, décident d'enchaîner sur le 5 ou le 6, tu vois, ça serait un petit peu dommage. Ouais. Mais bon, après, avec YouTube et tout ça, t'as moyen de rattraper le retard.
C'est ça. Bon, et maintenant, on va passer à l'instant Pixel. Attention. Pixel, tu as tenu à nous parler de Death Stranding. Alors, honnêtement, Pixel, je t'avoue, je ne sais pas ce que tu as à dire sur Death Stranding.
Bah,
parce que
fait,
personnellement,
je sais pas non plus.
J'ai vu le trailer du jeu et j'ai toujours pas compris ce que c'était. Hein.
Voilà, alors Death Stranding, bah, c'est un jeu Kojima. Et un jeu Kojima, avant qu'il sort, on a du mal à l'expliquer.
Voilà, c'est exactement ça.
oui, tout à fait.
Quand on regarde les trailers de Death Stranding, on a plus de questions que de réponses à la fin.
Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que c'est un walking simulator?
Non, je pense pas. C'est déjà un jeu à la troisième personne, en monde ouvert. Ça sera peut-être un vrai monde ouvert, ou alors des petites zones à la MGS5, ça, on n'en sait rien, on verra bien. Le héros Il livre des paquets, il livre aussi des cadavres, ce qui est extrêmement bizarre.
Delivery Simulator.
Voilà, Delivery Simulator. Le monde dans lequel ils vivent est apparemment décimé par quelque chose dont on ne sait rien pour l'instant.
À part que c'est des bestioles invisibles et voilà. Que visiblement, à un moment donné, ils trouvent un moyen pour les voir, mais voilà.
Voilà, l'humanité semble avoir été balayée par quelque chose, et il y a des survivants. Je pense qu'il y aura des éléments de survie. Il y aura obligatoirement des éléments, en tout cas, d'infiltration, où il faudra pas se faire repérer, parce qu'on voit dans le passage où, justement, il y a une espèce d'entité invisible qui bouge, qui semble les sentir, qui est à 50 cm d'eux. Eux ne bougent pas, ils ne parlent pas. Il y aura certainement des passages comme ça où il faudra s'infiltrer dans des zones où il y aura des entités invisibles, il faudra pas se faire remarquer. Il y aura certainement des combats à l'arme à feu, parce que à la toute fin du trailer, on voit qu'il déplie une arme qui semble ressembler à une arme à feu. Le héros aussi atteint, en fait, d'une maladie qui a plusieurs niveaux. Elle a un effet secondaire, en tout cas sur le héros, qui lui fait avoir une réaction épidermique et sa peau devient toute rouge quand les entités invisible passe tout près de lui. Apparemment, ça sera peut-être un marqueur visuel pour les joueurs, pour leur dire attention, plus la peau devient rouge et plus les ennemis se rapprochent. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça, en tout cas.
Mais du coup, Pixel, pourquoi tu as voulu nous parler de ce jeu aujourd'hui? Parce que bon, là, tu es dans la spéculation, tout ça, mais fondamentalement, qu'est-ce qui t'a hypé sur ce jeu pour que tu en parles?
Alors, déjà, c'est le côté un peu what the fuck. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Deuxièmement, alors là, pour le coup, si dans les autres jeux de From Software, je n'avais point été ébahi visuellement, là, on peut dire que Death Stranding, il est dans les gros standards des AAA actuels, même un peu plus.
On rappelle que c'est le Decima Engine de Horizon Zero Dawn.
Il y aura certainement pas mal de passages, on va dire, contemplatifs. Moi, j'ai très apprécié regarder le personnage évoluer dans des décors, alors certes, des décors vides, mais de superbes décors à regarder.
Parce que j'allais dire, c'est facile de faire des beaux décors quand t'as pas d'arbres, que t'as pas d'herbe, que t'as pas grand-chose, en fait.
Et que les ennemis sont invisibles.
Oui, mais moi, cette terre, désolé, m'a plu. Quand le mec, il se balade dans la pampa déserte, je pense que c'est du gameplay. Là, on nous a montré, en fait, quelques séquences de gameplay où le mec peut passer d'une crevasse à l'autre en mettant une échelle, où il peut nager, et s'il fait pas attention, il peut tout perdre. Donc, comme c'est un livreur qui doit certainement être payé ou rémunéré, en livrant, il faudra faire attention à sa cargaison. On le voit qu'il est suivi par un petit robot qui vole, puis ensuite, plus loin, par un deuxième. Donc, il y aura certainement un système d'upgrade où on va pouvoir être assisté par plusieurs robots qui vont nous aider à livrer plus de choses. C'est bizarre, voilà. C'est vraiment bizarre, mais ça me plaît quand même.
D'après ce que j'ai compris, toi, tu retiens le jeu par sa beauté, on va dire, technique.
Graphique.
Ainsi
ouais.
Que le fait que ça soit un jeu, on va dire, qui sorte des sentiers battus.
Voilà, c'est pas Call of Duty.
Ah oui, ça c'est sûr.
Oui, alors, Pixel, attends de voir le jeu final.
Voilà, justement, c'est là où je veux en venir dans mon sujet. Parce que mon sujet, c'est Kojima fait du buzz de série Z.
Alors là, je t'avoue, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais de quoi il parle?
Voilà, là, justement, Kojima, c'est pas la première fois qu'il nous l'a mise à l'envers.
Oui.
Non, mais souvenez-vous de Metal Gear Solid 2, par exemple. Dans la seconde partie, c'était Raiden qu'on jouait. Avant la sortie du jeu, dans toutes les vidéos de présentation, Raiden, il avait été remplacé par Solid Snake et tout le monde pensait que c'était Solid Snake.
Enfin, même dans le jeu, il te troll, quoi. Je veux dire, tu commences, t'es Solid Snake, t'es dans voilà. Le tanker, et là, d'un seul coup, on te dit, ah bah non, en fait, c'est pas lui que tu veux jouer.
Et ensuite, pour MGS5, il nous avait mis, en fait, deux doigts. Il nous en avait pas mis un, il nous en avait mis deux. Le premier, c'est sur le fait que Quiet, le personnage sniper qui suit le Big Boss tout le temps, on sait pas pourquoi elle est à moitié à poil. Et donc, forcément...
Mais vous allez voir, il y a une justification.
Il y a une justification. Et quand il l'a donnée...
On l'attend toujours, mais...
Bah non, si, il l'a donnée.
Ah.
Si, si,
ah ouais, bah
elle a été donnée.
Ah oui, oui, c'est vrai, elle respire par la peau. J'avais oublié cette
voilà. Ça. Du coup, t'aurais pu créer le personnage différemment, quoi.
Voilà, elle a le pouvoir de respirer par la peau. Elle doit être dévêtue en permanence, sinon elle va mourir étouffée. Ce qui est complètement stupide, ce qui donne une excuse d'adolescent de 12 ans à Kojima pour mettre une meuf à moitié à poil durant tout le jeu.
Ils auraient fait ça avec un personnage un peu, je sais pas, moi, plus laid, ou bien qui a des kilos en trop. J'aurais dit, ok, là, c'est couillu. Mais le fait d'avoir mis une bonasse, tu vois, je me dis, surtout que dans les cinématiques, tu peux zoomer, même, enfin, rappelez-vous, quand dans MGS5, Quiet est dans la prison, vous pouvez la mater, quoi.
C'est assez voilà. Malaisant, d'ailleurs.
Voilà, c'est Kojima qui fait du Kojima, comme il avait fait dans MGS3 avec le personnage de Eva, avec le personnage de The Boss, qui est un personnage qui a plus de 50 ans, mais qui est vachement toujours bien gaulé. Elle va se battre à la guerre, mais elle décolleté à l'air, quoi. C'est, voilà, c'est personnage.
Voilà, ce qui prouve que Kojima est un adolescent de 12 ans qui a un sérieux problème avec les femmes.
Non, c'est un beauf.
Oui, bon, c'est un beauf. On peut dire ça comme
les
ça.
Les deux ne sont pas incompatibles, hein.
Voilà, les deux.
La combinaison ultime.
Et voilà. Et il y avait un autre sujet dans MGS5 qui va conclure, en fait, ce que je voulais dire sur le buzz de série Z, c'est que Kojima, il avait dit, ouais, moi, je suis un rebelle de la profession. Moi, je vais vous parler, en fait, du scandale des enfants soldats en Afrique et ça va secouer le cocotier, quoi. Alors, MGS5, je l'ai fait en long, en large et en travers, et le sujet des enfants soldats s'est traité par-dessus la jambe. Par Kojima, c'est même pas le sujet principal, c'est juste n'importe quoi. Et quand j'y repense aujourd'hui, avec 3 années de recul, hein, le jeu est sorti il y a 3 ans déjà, comment on a pu croire qu'un mec qui a passé toute sa vie à faire de l'entertainment à base de science-fiction de série Z ait pu nous faire croire qu'il nous parlerait d'un sujet aussi grave que les enfants soldats en Afrique? Comment on aurait pu croire qu'il nous en parlerait bien? N'importe
en fait,
quoi.
Le problème, c'est qu'il l'avait déjà fait avant, en fait, les enfants soldats en Afrique avec le personnage de Raiden. Sauf que ça se passait par codec, en fait.
Et, voilà, ouais, donc, c'est, mais même là aussi, c'était traité par-dessus la jambe, quoi. Enfin, je veux dire, qui a joué à MGS2 en se disant, oh là là, ouais, les enfants soldats, vraiment, c'est un sujet très profond. Moi, j'ai surtout retenu les missiles qui sont renvoyés par télépathie, mais bon, voilà, quoi.
Ouais, mais, non, mais après, parce qu'après, il faut, par exemple, MGS4, c'est un jeu que j'aime pas. Mais par contre, ça traitait quand même des sujets un peu en avant sur l'actualité, qui parlaient des sociétés militaires privées. Et du coup, bah, Kojima, c'est un peu comme Assassin's Creed, c'est-à-dire que il te fait pas un cours spectaculaire sur, par exemple, ce que va être les enfants soldats ou la privatisation des armées. Mais par contre, c'est quelqu'un, moi je trouve, qui te permet d'aborder un sujet en profondeur si tu es intéressé par le sujet.
Voilà. Et pour en venir à la conclusion que Death Stranding, quand il sortira, j'ai peur, en fait, que tous les fans théoriques qui auront pullulé pendant des années grâce au trailer très énigmatique, je me dis qu'une fois que tout sera révélé, que tout sera divulgué, comme pour MGS2 ou MGS5, tout le monde va se dire « Putain de merde, Kojima nous a mis un troisième doigt, quoi. C'est vraiment un soufflé, c'est de la série Z de seconde zone, enfin de la science-fiction de série Z, plutôt. Et plus personne n'en parlera, tout le monde trouvera ça débile. » Et tout le monde passera à autre chose. Je pense que les gens seront déçus.
Sauf Julien Chiez.
Oui, oh oui, bah oui, forcément.
Ah ça y est, j'ai
forcément.
Mis
une pièce, là. Voilà. Bon, allez, on va s'arrêter là pour cette semaine, messieurs.
Ouais.
Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.
Salut.
Et salut.